The WikiLeaks revelation.
Le New York Times, Le Guardian, Le Monde, Der Spiegel, El País, cinq grands journaux s'associent à WikiLeaks et documente l'envers du décor de la diplomatie américaine.
Julian Assange a donc été arrêté à Londres. C'est ce qu'a fait savoir en fin de matinée la police britannique.
Donald Trump utilise les 20 000 courriels piratés du Parti démocrate pour dénigrer sa rivale.
Il est aujourd'hui, comme vous le savez, emprisonné à Londres dans le cadre d'une procédure d'extradition. Cette procédure, au-delà de Julian Assange, concerne tous les journalistes qui n'ont pas la nationalité américaine.
C'était en 2010, alors pas Éric Dupond-Moretti qui s'est exprimé là il y a quelques jours, mais l'affaire, en collaboration avec un site dénommé WikiLeaks, les journaux parmi les plus prestigieux d'Europe et du monde, publiaient une longue série de révélations sur les guerres menées en Afghanistan et en Irak sur la base de documents secrets pour avertir l'opinion mondiale d'exactions commises par l'armée américaine. À la fin de l'année 2010, le journal Le Monde attribuait à Julian Assange, fondateur du site, le titre de personnalité de l'année. 10 ans après, où en est-on? Alors que l'Australien est toujours incarcéré à Londres, son procès en vue d'une extradition vers les États-Unis doit commencer lundi. Il risque jusqu'à 175 ans de prison. Les mérite-t-il? Et s'il est condamné, quelles conséquences pour ce que le journaliste Edoui Plenel appelle le droit de savoir? Deux invités pour répondre à ces questions. Guillaume Ledit, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste vous-même, vous avez cofondé le site ovni.fr, média partenaire de WikiLeaks dont vous avez été le rédacteur en chef pendant quelques années. Et puis vous êtes co-auteur avec Olivier Tesquet d'un livre qui vient tout juste de paraître chez Actes Sud, Dans la tête de Julian Assange. Alors là, on va comprendre des choses. Et puis Paul Moreira est avec nous, bonjour.
Bonjour.
Grand reporter, réalisateur, fondateur de Première Ligne Production qui produit notamment Cache Investigation pour France 2. Vous avez dirigé en 2015 le livre collectif Informer n'est pas un délit avec Fabrice Arfi chez Calman Levy. Vous avez aussi été l'auteur avec Luc Herman d'une enquête sur les Wikileaks pour Arte intitulée Wikileaks, la guerre contre le secret. Il y avait une tribune parue sur le site du monde.fr hier signée de l'avocate, ancienne magistrate et femme politique Eva Joly qui disait... Julian Assange se meurt en prison pour avoir rendu public des crimes de guerre, pour nous avoir permis d'être informés. Vous êtes d'accord avec cette phrase, Guillaume Ledit ?
On ne peut qu'être d'accord avec cette phrase. Eva Joly résume parfaitement la situation de Julian Assange. Ce pourquoi Julian Assange est emprisonné là, c'est dans l'attente de ses audiences d'extradition qui démarrent, je le rappelle, lundi 24 février. Il n'a été condamné pour rien et donc il attend ses audiences d'extradition dans une prison de haute sécurité à Belmarsh, dans laquelle il a été d'abord mis à l'isolement, puis maintenant un petit peu moins à l'isolement, mais quand même traité de façon assez difficile.
D'ailleurs, il va mal.
Et d'ailleurs, il va très très mal psychologiquement et physiquement. C'est un petit peu difficile pour lui en ce moment. Encore une fois, la seule chose qu'on lui reproche effectivement, c'est d'avoir effectué un travail journalistique de diffusion d'informations et de mise en contexte de cette information.
Un travail journalistique, Paul Moreira, vous qualifieriez ce qu'a fait Julian Assange de travail journalistique aussi?
En tout cas, il a révélé la vérité. C'est-à-dire que moi, j'ai couvert la guerre en Irak. Pendant les 5 ans qu'elle a eu lieu, j'ai couvert la guerre en Irak. Il y avait une difficulté énorme, c'était de montrer... que l'armée américaine commettait des crimes de guerre. Moi, j'ai filmé une fois un hôpital pour enfants en 2004 dans un quartier de Bagdad qui avait été pris pour cible par des tireurs américains. Un médecin avait été blessé très gravement, il avait fini en chaise roulante, il y avait eu 3 morts. Et c'était indocumentable, parce que quand vous étiez avec les Américains, ils vous empêchaient, parce que vous signiez une clause, comme quoi ils contrôlaient vos images. Il y a eu 500 000 morts en Irak, ça on le sait tous. Il n'y a jamais eu d'image des exactions de l'armée américaine. Une seule fois dans l'histoire, on voit des soldats américains tuer des civils. Ils tuent 2 journalistes, ils tuent des civils, ils blessent très gravement un enfant de 10 ans. Et à qui on doit ces images? On les doit à Julian Assange. On les doit bien sûr à Bradley Manning, c'était un garçon à l'époque, qui est un soldat de l'armée américaine, qui voit ces images, qui sont des images de l'armée américaine, qui les télécharge sur une clé USB et qui se dit, ces images-là, il faut qu'elles voient le jour, il faut qu'on voit comment, de manière froide et déterminée, des soldats américains tuent des civils et des journalistes, en rigolant. Puisque quand on écoute « Collateral Murder », c'est le nom qui a été donné à ce vidéoclip, le ton employé est absolument glaçant. Cette bande vidéo, il faut le dire, parce que c'est assez peu connu, Bradley Manning va la proposer au Washington Post. qui ne la publie pas.
Pour et quelle
c'est
raison?
Là, pour quelle raison? Je suis incapable de vous le dire,
ils
mais
ne
certainement
se sont jamais
pour des raisons de responsabilité éditoriale, j'en sais rien.
Sans doute pour la même raison que le New York Times a refusé de publier une partie de ce que Snowden a révélé plus tard.
Exactement. Donc on est dans une situation où vous avez des grands médias qui se conduisent de manière, je mets des guillemets, responsable, et qui en fait dissimulent des crimes de guerre. Que nous allons payer? Parce que le carnage de l'Irak va revenir sur nous, on le sait nous. On a eu le Bataclan, on a eu tout ça, on le sait qu'on va le payer très cher. Et vous avez donc des gens qui sont Wikileaks, qui ont une certaine éthique qu'on peut critiquer, on peut en parler je pense, mais qui disent, bah nous on montre tout. Voilà, on le met en ligne, et là quand ils arrivent, ils font un énorme boucan. J'étais en fait, ce fameux film dont vous parlez, j'étais dans la coulisse au moment où Assange rend public ces images. Rend public ce qu'on a appelé les war logs, c'est-à-dire des centaines de milliers de documents qui venaient des ordinateurs de l'armée américaine. Ils le rendent public et là, toute la presse suit. Tous les journaux qui vont le lâcher par la suite le suivent à ce moment-là.
Pourquoi ils l'ont lâché par la suite? Bon, il a été accusé de viol, puis ensuite la justice suédoise a abandonné les poursuites, Guillaume le dit.
Non, mais parce que comme toute figure médiatique qui émerge comme ça tout d'un coup sur la scène médiatique internationale, Julian Assange crée une certaine forme d'attraction et une certaine forme de répulsion, notamment par les médias. Vous avez mentionné la couverture du Time où il est bâillonné par un drapeau américain. À partir du moment où Julian Assange sort de l'ombre pour arriver dans la lumière, il suscite un vif intérêt et comme son personnage est parfois un petit peu sulfureux, surtout, il fait preuve parfois d'une forme de cynisme, d'une forme d'arrogance, au sens où il estime que lui fait mieux son travail que les journalistes d'investigation en place. Donc évidemment, un certain nombre de journalistes le prennent relativement mal. Et vous avez mentionné effectivement les poursuites suédoises. Il est allé au-delà du consentement de deux femmes en Suède. Hein, c'est ce qu'on appelle dans la qualification suédoise un viol par surprise. Il a, pour rentrer dans les détails scabreux, refusé de mettre un préservatif à un moment donné au cours d'une relation sexuelle.
Consentante.
Consentie. Mais effectivement, son personnage a été terni. Et puis, il faut mentionner aussi le fait qu'il a passé 7 ans dans une ambassade dans 20 mètres carrés, avec pour seul moyen de communiquer Internet, son compte Twitter, etc. Et il est devenu encore plus parano qu'il ne l'était, à raison puisqu'il était surveillé au sein de son ambassade. Mais il y avait un côté aussi, ce qu'on appelle sur Internet, troll. C'est-à-dire qu'il n'hésite pas à provoquer, et à provoquer notamment les médias responsables.
Oui, mais c'est la figure sulfureuse, avec peut-être cette dimension arrogante dont vous parlez, Guillaume le dit, qui a fait que certains grands médias qui au départ l'avaient suivi ont pris leur distance, Paul Moreira. Mais est-ce que c'est pas aussi la question que je vous ai posée tout à l'heure et que je vous repose, le fait même qu'on peut se demander s'il fait vraiment un travail journalistique, même c'est votre co-auteur Olivier Tesquet qui se pose la question en disant il y a une différence entre le travail de journaliste qui consiste d'abord à vérifier les infos, à les trier, puis les publier, ce qu'ont fait les journalistes qui l'ont suivi, les journalistes mondiaux, alors que Julian Assange peut être considéré comme une source. Et je pense que dans les enjeux que pose ce procès aujourd'hui qui est fait à Julian Assange, distinguer les choses est important, Paul Moreira, non?
Alors, en ce qui concerne, je vais revenir sans arrêt à la bande vidéo collatérale Murder, parce que n'importe qui nous écoute peut, après nous avoir entendu, aller sur Google et taper Collateral Murder et ils verront de quoi on parle. C'est une vidéo donc qui vient des entrailles de l'armée américaine, puisqu'elle a été filmée par l'hélicoptère américain qui ouvrait le feu sur des civils. D'après ce que je sais, ils ont passé des semaines et des semaines dans une maison, dans une safe house, une maison sécurisée à Reykjavik en Islande.
Le bunker, on l'appelle.
On appelait ça le bunker, à vérifier qui est tué, où est-ce que ça s'est passé, à quelle heure, quand. C'est pour ça que quand ils le sortent, ils connaissent le nom des deux journalistes, ils connaissent le nom de tous les civils qui ont été tués, ils connaissent le nom des soldats qui arrivent sur place, parce que la beauté du truc, c'est que vous avez des soldats américains qui arrivent sur le fameux minibus qui a été criblé de balles, des balles d'un calibre énorme qui sont tirées par les mitrailleuses. C'est une mitrailleuse vraiment féroce qui ne laisse aucune chance de survie de l'Apache, et des soldats américains qui sont bouleversés pour toujours, parce que nous, enfin, quand on a fait ce film, on a retrouvé un des soldats américains qui arrive sur le van, qui voit l'enfant ensanglanté, qui voit la famille détruite par les projectiles d'une énorme, et sa vie change. Il dit, j'ai l'impression de faire un truc horrible.
Donc ça n'est pas qu'une source, c'est ça que vous voulez nous dire?
Alors, je ne sais pas ce qu'on appelle le travail journalistique, mais si dans la mesure on prend un fait et on vérifie que c'est pas une manipulation, que c'est vraiment une information et qu'on le publie, bah on peut le qualifier de travail journalistique.
Guillaume le dit.
Oui, je suis tout à fait d'accord avec Paul. Je précise simplement que pour Collateral Murder, Assange a notamment dépêché deux de ses proches, des journalistes, hein, islandais notamment, en Irak pour aller retrouver les familles des victimes.
Absolument. Hein,
juste avant de présenter Collateral Murder à Washington. Donc, si ce n'est pas un travail journalistique, qu'est-ce que c'est? Donc là, on parle de Collateral Murder, on est tout à fait d'accord là-dessus. Ce qui lui a été reproché notamment, c'est par la suite, dans la diffusion des Iraq War Logs et des Afghan War Logs, de n'avoir pas expurgé l'ensemble des documents. Ce qui relève de l'éthique de Julian Assange, qui dit que toute information doit être accessible au public. Hein, Wikileaks, pour lui, est une agence de renseignement du peuple, donc le peuple doit être au courant de l'ensemble de ces informations. C'est ça qu'on lui reproche, en fait, et c'est ça que lui a reproché l'administration américaine, c'est de mettre en danger des gens sur le terrain en Afghanistan, notamment. Des informateurs potentiels de l'armée américaine.
C'est un argument qu'utilisent ses détracteurs aujourd'hui.
Absolument.
Hein.
Oui, mais il c'est se trouve que...
D'ailleurs, certains journalistes aussi.
Oui, mais il n'y a aucune preuve, à l'heure où on parle, que un seul individu ait été mis en danger sur le terrain en Afghanistan ou en Irak par les révélations de Wikileaks. Et ça a été documenté un certain nombre de fois, notamment par une enquête du Pentagone. Enfin, je veux dire, le discours selon lequel Julian Assange a du sang sur les mains, comme on l'a entendu par l'administration américaine, pour l'instant, n'est pas validé par les faits.
Au-delà de Julian Assange et de son rôle, même si c'est de lui qu'on parle ce matin avec vous deux, Paul Moreira et Guillaume Ledy, est-ce que vous compareriez ce qu'a fait Julian Assange à d'autres qu'on dit non pas sources ou journalistes, mais lanceurs d'alerte? Pour dire le mot tel qu'il est, vous avez évoqué Bradley Manning, devenu Chelsea Manning. Oui. À un moment, Paul Moreira, Edward Snowden. Aujourd'hui, c'est Rui Pinto. Alors, il faut peut-être dire qui est Rui Pinto.
Bah, Rui Pinto, c'est un hacker portugais donc, qui, dans un premier temps, a sorti les Football Leaks sur lesquels nous avons travaillé avec Mediapart. Donc, on a fait un sujet pour Envoyé Spécial, qui était très intéressant, parce que ça parlait d'argent, ça parlait de racisme, en fait c'était vraiment très passionnant. Et on s'est aperçu, alors c'est un hacker, hein, donc c'est un voleur.
Ah, c'est pour ça, encore un autre mot.
C'est un voleur, mais c'est un voleur, comment dire, tout vol est illégal, n'est-ce pas, donc, mais parfois la légalité est pire que l'illégalité. Et dans ce cas précis, quand vous avez des gens comme la famille Dos Santos en Angola, qui littéralement pillent un pays misérable, le fait qu'il y a un hacker qui rentre dans leur correspondance, qui trouve les preuves du vol...
appelle les Luanda Leaks.
Les Luanda Leaks,
qui ont été publiés par le consortium international des journalistes d'investigation.
Voilà, et grâce à une fuite générée par le hacking de Rui Pinto, ben vous avez finalement quelqu'un qui a mis une pratique illégale au service du combat contre une pratique encore plus illégale, à mon sens, avec des conséquences encore plus graves pour le peuple angolais.
Les mots ont un sens, oui, Guillaume le dit, je vais vous donner la parole tout de suite, mais justement, est-ce qu'on pourrait dire que tous les moyens sont bons quand on fait un travail journalistique, y compris le hacking, donc le vol, pour informer le public, peu importe d'où vient l'information, peu importe comment elle a été obtenue, enfin, est-ce qu'on peut aller jusque-là ?
Alors, je pense qu'effectivement, les mots ont un sens et que le terme de hacker a été légèrement, notamment dans la pop culture, dans la culture populaire actuelle, légèrement galvaudé. C'est-à-dire qu'un hacker, c'est pas quelqu'un qui met sa petite capuche sur la tête et qui va coder l'ennemi pour aller voler des secrets et puis extorquer ensuite soit de l'argent, soit des secrets intimes à un certain nombre de gens. Un hacker, c'est quelqu'un qui recherche effectivement à rentrer dans des réseaux dans lesquels il n'a pas le droit. C'est un explorateur. En revanche, les hackers ont ce qu'on appelle une éthique. L'éthique hacker, qui a été formalisée notamment par Stephen Levy, journaliste du New York Times, la première règle de cette éthique hacker, c'est que l'information doit être libre. D'accord ? S'ensuit toute une série de règles selon lesquelles, quand on rentre dans un réseau, il faut le laisser tel qu'on l'a vu en l'état, et surtout qu'on ne se fait pas d'argent avec nos hacks, en gros. Donc un hacker n'est pas forcément quelqu'un qui va forcément aller dans l'illégalité constamment. En revanche, pour Julian Assange, qui est très très marqué par cette éthique hacker, le point fondamental, c'est que l'information doit être libre. Quels que soient effectivement les moyens selon lesquels on peut accéder à cette information. Sur la question du lanceur d'alerte, Assange s'est toujours défini non pas comme un lanceur d'alerte, et c'est peut-être ce qui a expliqué aussi le problème de ses relations avec les médias, mais comme, assez rapidement, le rédacteur en chef de Wikileaks, et comme un journaliste. Et le fait que lui-même soit traité comme une simple source, ou comme un simple, j'allais dire, lanceur d'alerte, même si c'est jamais simple d'être lanceur d'alerte, l'a un petit peu heurté, et ça peut expliquer aussi les relations parfois tendues avec des grands médias internationaux.
Alors Paul Moreira, en quoi ou pourquoi faut-il libérer Assange ? En quoi son extradition pourrait-elle nuire à la liberté d'informer ? Pourquoi, en gros, défendre Assange, c'est défendre le journalisme aujourd'hui ?
Si on compare une autre figure comparable dans l'histoire qui a sorti des documents très ennuyeux pour l'armée américaine, vous avez un type qui s'appelle Daniel Ellsberg, que si les gens qui ont vu...
Une des Pentagon Papers.
Voilà, des Pentagon Papers, qui à l'époque de la guerre du Vietnam sort une quantité de documents indiquant un certain nombre d'illégalités, de crimes de guerre commis par l'armée américaine. Donc c'est à peu près le même cas de figure. Hein. Il les rend publics, il les donne au Washington Post. Il y a un très bon film avec Meryl Streep qui est sorti récemment, donc on peut voir exactement ce qu'est cette histoire. C'était un petit risque de les publier, le Washington Post l'a publié. Et à l'époque, parce qu'on est dans le Watergate, parce que la société a la certitude que la presse est un contre-pouvoir, parce que on se rend compte, c'est culturel, on se rend compte que s'il n'y a pas des Daniel Ellsberg, et aujourd'hui s'il n'y a pas des Julian Assange, eh ben on laisse au pouvoir, la totalité du pouvoir, la possibilité de scanner chacune de nos conversations. On est dans un moment technologique incroyable. C'est-à-dire que la transparence ne s'exerce que dans un seul sens. Sachez que n'importe lequel de votre email peut être lu par les services secrets américains. N'importe laquelle de vos conversations téléphoniques peut être écoutée. Dans l'autre sens, ça devient un crime impardonnable. On risque d'emmurer vivant un homme qui a pour seul crime d'avoir révélé que des soldats ont tiré sur des civils. Vous connaissez le nom de ces soldats ? Personne. Ces types ont tué des gens qui n'avaient aucune raison de mourir. Personne ne connaîtra leur nom et ils finiront sans être jamais...
Fut un temps où on parlait de raison d'État, de secret défense. Aujourd'hui, le procès qui est fait dans l'autre sens, c'est le procès de la transparence. C'est de dire, attention, oui, mais tout savoir... On rejoint la critique que vous évoquiez tout à l'heure, hein, Guillaume le dit. Le problème, c'est que ça peut mettre en danger quand on sait tout. Dans certains cas, c'est extrêmement dangereux aussi. Donc, où met-on quand même la limite, Guillaume le dit.
Alors, je ne vais pas trancher cette question de la nécessité de la transparence pour un État ou une entreprise, la nécessité du secret pour protéger ses actions, qu'elles soient en interne ou à l'externe. Ce que je voulais juste simplement préciser, quand on parle de menaces sur la liberté de la presse et la liberté d'expression, Assange est poursuivi au motif de l'espionnage act. D'accord ? Il est considéré comme une agence de renseignement ennemie à lui tout seul. C'est un espion pour les États-Unis. L'espionnage act date de 1917 et envoyait notamment les époux Rosenberg à la chaise électrique. On parle quand même de ça. C'est-à-dire que n'importe quel, comme le disait Dupond-Moretti au début dans l'introduction de l'émission, n'importe quel journaliste non américain pourrait être considéré comme un agent de l'ennemi s'il publie des documents classés secret défense. On en est là. Je veux dire, si l'ensemble des médias, le lundi 24 février, ne font pas leur une sur la situation de Julian Assange, j'estime qu'il y a un problème, à titre personnel, dans la défense de la liberté d'expression et de la liberté de la presse dans le monde.
Vous diriez aussi que les temps ont changé. Vous évoquiez Paul Moreira, l'affaire des Pentagon Papers, qui est pas loin d'avoir 50 ans. Mm-hmm. On peut remonter à moins loin, puisque vous parlez de l'espionnage act. Du temps d'Obama, c'était les lanceurs d'alerte, qui étaient, c'était pas les journalistes, puisqu'ils avaient mis la limite à ce moment-là. Mm-hmm. Mais la donne a changé avec Donald Trump. Aujourd'hui, il y a une chasse aux sorcières journalistiques, Paul Moreira, Trump. On peut aussi citer Bolsonaro, puisque là, il y a un article d'Edward Snowden, autre lanceur d'alerte paru dans Le Monde daté du 1er février, qui parle de Glenn Greenwald, poursuivi au Brésil, et il dit que c'est un coup dur pour la liberté de la presse, alors que Glenn Greenwald a été inculpé pour ses enquêtes sur la corruption. Donc,
écoutez, évidemment, que si ça devient un précédent, c'est-à-dire que si, pour avoir publier des informations exactes qu'il n'a pas mises au bénéfice d'un autre pays, mais qu'il les a juste rendues publiques, des crimes de guerre de l'armée américaine, si jamais il prend 175 ans de prison, on change d'époque. Moi, pour vous donner un exemple très concret, précis et minuscule, mais quand même intéressant, la dernière fois que je suis allé aux États-Unis, j'arrive à l'aéroport de Chicago, le monsieur qui me reçoit, qui est du Homeland Security, regarde quelque chose sur son écran, il me dit « Vous suivez-moi », il m'emmène, ils me disent « Votre nom apparaît là où il ne devrait pas apparaître, on va vérifier tout ce qu'on sait sur vous, dans les 17 agences fédérales américaines qui sont liées d'une manière ou d'une autre à la sécurité. » Et j'ai attendu 4 heures sur une chaise où je disais, mais en fait, vous me détenez. Là. J'ai un visa journaliste, je suis tout à fait transparent, je suis détenu. Si vous n'êtes pas détenu, vous pouvez repartir quand vous voulez. J'ai finalement réussi à rentrer. Mais ça veut dire qu'on est dans un moment où ce qui est accumulé comme renseignement sur les journalistes qu'on estime comme... je ne sais pas, gênant ou du moins...
L'idée, c'est de dissuader les journalistes d'enquêter sur des sujets gênants. C'est ça ?
On vous intimide, effectivement, quand on sortait des documents classés secret défense concernant la France à OVNI à l'époque, des journalistes ont été convoqués par la DGSE notamment. Enfin, bon, c'est des choses qui arrivent maintenant, qui n'arrivaient pas précédemment, ou moins. Vous mentionnez l'administration Obama. Juste un petit mot pour dire que l'acharnement judiciaire de l'administration Obama à l'égard des lanceurs d'alerte était énorme. Effectivement, là, on change un peu de registre puisqu'on s'attaque à des journalistes. On s'attaque toujours aux lanceurs d'alerte. Chelsea Manning, je le rappelle, est actuellement encore emprisonnée pour avoir refusé de témoigner pour incriminer Julian Assange. Et s'il y a une véritable héroïne dans toute cette histoire, c'est elle.
Merci à tous les deux. À suivre donc le procès qui va commencer donc ce lundi en vue de son extradition de Julian Assange dont on parlait. Dans la tête de Julian Assange, c'est votre livre, Guillaume Ledy, qui vient de paraître aux éditions Actes Sud. Et puis on peut voir vos documentaires, reportages et autres émissions dont vous occupez, Paul Moreira bien sûr. On mettra tout ça en lien sur notre page internet. Merci à tous les deux.
Merci.